Salut.
Salut.
Notre invité ce soir fait peut-être partie, on nous le dira, de ces gens décrits avec talent par Anne Sylvestre.
J'aime les gens, toutes les gens qui trop écoutent, leur cœur se balance. J'aime les gens qui disent, qui se contredisent et sans se dénoncer.
Thank you.
Voilà, c'était le morceau. Là, c'est le titre du morceau.
Voilà, c'est là. Je me suis demandé si tu avais été coupé ou pas, en fait.
Et non, c'est comme ça qu'il s'intitule. Bonsoir, suis-je. comment, je sais pas. Alors, si tu fais partie un peu de ces gens qui doutent d'Anne Sylvestre.
Je crois que tu as fait une très belle présentation. Donc, si je fais partie des gens qui doutent, mais c'est ça qui fait avancer aussi.
Ah ouais, c'est bien de se remettre en question. Et ce premier album, il a mis un peu de temps à arriver, mais c'était à cause de quoi?
Je pense pas qu'il faille dire à cause.
Grâce à
non, grâce non, à, non peut-être. Mais en fait, c'est un projet avec lequel j'ai voulu prendre vraiment le temps. Et alors peut-être, oui, comme tu disais, il y a eu un peu de Covid par là, ça c'est sûr. Mais il y a aussi eu le besoin de prendre le temps pour savoir réellement ce que je voulais en faire de ces compositions et comment le sortir, est-ce que le sortir au final, mais voilà, en fait, les choses sont arrivées quand elles devaient arriver et pour moi c'était très bien comme ça.
La question, est-ce que c'est posé? Pardon, Kat.
T'inquiète.
T'es carrément allé jusqu'à cette question-là. Est-ce que je dois le sortir?
Non, peut-être pas, mais après, c'est toujours compliqué quand on enregistre et qu'il se passe quand même plusieurs années. Il y a quand même l'expérience du live qui fait que les morceaux ils évoluent, tout ça, et quand on réécoute, on se dit est-ce que j'aurais pas envie de réenregistrer? Et en même temps, pour moi, ça a marqué une période assez importante de ma vie, donc je les ai acceptés aussi comme ils sont sur cet album, et j'en suis très fière.
Le live, de toute façon, fera que tes morceaux évolueront certainement tout le temps. Enfin, c'est comme une maison, elle n'est jamais finie. On a fini la dernière pièce qu'on retapisse la première.
C'est exactement.
La question suisse, c'est peut-être aussi ce que tu t'es demandé en te lançant en solo. Enfin, on t'a surtout connu avec des projets, de la Smarnik Soundtrack, Alan Corbel, etc. Ça a été quoi ton déclic? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, eh ben, là, je vais me lancer toute seule. Tu avais des choses à dire que tu ne pouvais pas dire dans ces autres groupes. Enfin,
bah, en fait, vous avez analysé. Vraiment.
Fait une grosse analyse.
Hyper bien. Non, mais c'est vrai. Je suis assez marquée parce que c'est pas fréquent. Mais c'est exactement ça. En fait, moi, donc je suis de formation classique. J'ai fait le conservatoire et très très vite, je me suis intéressée à d'autres musiques. Donc c'est là où j'ai commencé à jouer, à accompagner ces différents groupes ou artistes. Mais j'étais vraiment au service d'eux. Je pouvais proposer des arrangements, mais de toute façon, au final, c'était l'artiste qui choisissait ce qu'il voulait, ce qui est totalement légitime. En plus, ça me permettait aussi d'aller vers des endroits où je ne serais pas forcément allée instinctivement. Mais au bout d'un moment, il y a eu cette envie de proposer quelque chose de plus personnel. Et en fait, ça a duré plusieurs années. Hein. J'avais envie. En fait, à chaque fois, je trouvais des excuses. J'avais soit pas le temps, soit à un moment, c'était, j'avais plus le choix, quoi. Ça devait sortir.
Il y a peut-être quelque chose aussi de, entre guillemets, confortable quand on commence dans la musique, de se mettre avec des groupes où finalement on se lance, on se nourrit un petit peu de chaque rencontre pour après commencer à se dire là, maintenant je vais pouvoir, j'ai la carrure pour faire la chose moi-même en fait.
Bah, totalement, il y a déjà se nourrir musicalement, artistiquement de toutes ces rencontres. Et il y a aussi peut-être aussi se créer un réseau. Parce que déjà je trouve qu'un solo c'est vraiment pas évident à défendre tous les jours, tout ça. Mais si on arrive avec un solo dans un monde que personne ne connaît, alors je sais pas. Alors ça arrive hein, sûrement. En tout cas, moi c'est vrai que ça, le fait de participer comme ça à plein de projets différents, ça m'a donné un peu les épaules quoi, pour porter ce solo.
Rennes, c'était un endroit propice à développer ce réseau, à trouver sa place.
En fait, ça s'est fait totalement naturellement. Je pense que au moment où j'étais encore au conservatoire et que j'ai commencé à jouer avec, mon souvenir, c'était vraiment The Last Morning Soundtrack. En fait, c'était une époque où le violoncelle était à la mode, quoi, clairement. Et du coup, on n'était pas si nombreux sur Rennes, en tout cas, à accepter les propositions. Et du coup, je me suis retrouvée comme ça, un peu... C'était assez facile, dans le sens où, on avait envie d'un violoncelle, on appelait Juliette, quoi. Voilà.
Après, depuis le début, c'est vrai qu'on dit projet solo, oui, tu es une personne, mais il y a quand même la rencontre avec ton violoncelle. Je trouve que vous êtes quand même deux voix, enfin, il y a clairement deux voix dans ce projet.
Mon amoureux appelle mon violoncelle mon amant.
Il n'est pas trop jaloux?
Un petit peu, ouais. Parce que je passe quand même beaucoup de temps avec lui. Donc, bah oui, si, clairement, j'ai exprimé ce que j'avais à exprimer, mais par mon violoncelle. Sans mon violoncelle, j'aurais pas pu. Et c'est vrai que c'est, j'aime bien dire que ce solo, c'est un peu un dialogue entre moi et mon violoncelle, parce qu'il y a la voix, mais la voix, bon, sur ce titre-là, il y avait du texte, mais c'est vrai qu'il y en a très peu.
Du souffle, des...
Voilà, c'est ça, et c'est, pour moi, c'est quelque chose qui se confond, qui se répond, qui se confronte des fois, et donc oui, je peux pas dire que c'est un duo quand même, parce que là, les gens, ils comprendraient pas trop, mais je suis d'accord avec toi.
Il y a une autre pièce du puzzle, c'est les pédales que tu utilises pendant le live aussi, je pense, et ça rajoute, ça ouvre des portes et des horizons, je pense, pour faire un projet solo.
Alors, oui, ça c'est sûr. Je ne pourrais pas faire ce que je fais sans ma pédale. Par contre, à la base, j'ai pas du tout pensé au live. Parce que sinon, ça m'aurait complètement fermé plein de portes. En fait, j'avais besoin de composer, besoin d'exprimer ce que j'avais à l'intérieur de moi. J'ai pris mon ordinateur, ma carte son, et puis j'ai fait des maquettes. Faudrait même pas les écouter, parce que le son est vraiment nul, mais c'était peu importe, quoi. Et en fait, j'ai empilé les plans de Russell, j'ai enregistré, et après, je me suis dit, ah, il va falloir jouer sans. Et là, ça a été une autre affaire. Mais ce qui a été hyper intéressant, parce que je pense ne pas dire de bêtises en me disant que du coup, ma pédale de boucle, je l'utilise de manière plutôt subtile, et il n'y a pas le truc très répétitif où on peut ne pas s'en rendre compte, en fait, qu'il y a cette pédale de boucle. Parce que j'ai pas voulu déjà que mes morceaux durent 10 minutes pour que je puisse réenregistrer à chaque fois par-dessus. Et puis c'était pas le but. Et c'était vraiment. Je suis allée trifouiller au fond pour voir toutes les capacités qu'elle avait.
Vas-y, Kat.
Non, mais c'est parce que j'avais cru voir la tête de Ben sur le côté. Donc je pensais qu'il allait poser une question. Mais absolument pas du tout. Désolée. Non, mais après, voilà, c'est peut-être une question qu'on doit quand même souvent me poser. Mais. Tu l'as appris comment, le violoncelle? Ça t'est venu comment? C'est ton compagnon de route depuis combien de temps? Et est-ce que petite, tu écoutais peut-être des choses qui t'ont donné envie de faire cet instrument, de pratiquer cet instrument?
Alors, j'ai des parents mélomanes. Depuis que je suis toute petite, même depuis le ventre de ma maman, je pense que j'en ai bouffé de la musique et de tout style différent. Tout style, tout simplement. Et par contre, ils sont pas musiciens. Et vers l'âge de 4-5 ans, j'ai voulu faire de la musique, sauf que à 4-5 ans, il n'y a pas grand monde qui te veut en élève. Mais mes parents ont trouvé une prof de piano qui voulait bien me prendre, alors j'ai fait un an de piano. Et alors après, je le dis, mais c'est parce que j'étais petite et je m'en souviens plus du tout, mais à la fin de cette année, j'ai dit à mes parents, oui, mais j'aimerais bien jouer devant des gens.
Quand tu voulais être une star petite, c'est ça?
Peut-être, ouais. Et du coup, en cours particulier, c'était pas forcément possible. Et en fait, là, j'avais l'âge d'intégrer le conservatoire. Donc, je suis allée au conservatoire et à l'époque, c'était encore un an de solfège sans instrument. C'était un peu... Mais en même temps, c'est ce qui m'a permis de découvrir le violoncelle parce que j'étais partie pour faire de l'accordéon. Pourquoi? Je ne sais vraiment pas. La seule chose que je sais aujourd'hui, c'est que mon père m'a dit qu'il a toujours rêvé de faire de l'accordéon. Donc peut-être que petite, je l'avais entendu et que voilà. C'est... Et le jour où on devait inscrire l'instrument qu'on voulait faire, le prof de violoncelle est rentré dans la salle et nous a dit « Est-ce que vous connaissez le violoncelle ? J'ai pas beaucoup d'élèves en ce moment, je veux bien vous le faire découvrir et vous me dites ce que vous en pensez, quoi. » Et ben là, j'ai vu le violoncelle et j'ai dit « C'est cet instrument que je veux faire », et là j'avais 7 ans. Je ne dirais pas plus combien de temps.
Non, tu t'es mise à cet instrument par pur hasard, en fait.
Par pur hasard, et en même temps, je l'ai vu, quoi. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, c'est ça. Mais je ne savais pas du tout que j'allais en faire mon métier, quoi. Vraiment pas.
Qu'est-ce qui t'a attiré dans l'instrument, alors, quand tu l'as vu pour la première fois? Pourquoi le violoncelle et pas autre chose?
Et
dû être plus grand que toi en plus.
C'est alors c'est une, là, du coup, je me souviens pas réellement. Je pense que peut-être que si je m'étais retrouvée devant un autre instrument, peut-être que j'aurais choisi cet autre instrument. Mais là, moi, ça m'a. Après, de toute façon, c'est un instrument quand on le voit en live qui résonne, qui vibre. Je pense que du haut de mes 7 ans, j'ai fait waouh. Voilà. Je pense, mais je me souviens plus réellement.
Tu dis qu'il était particulièrement à la mode il y a une dizaine d'années, c'est ça?
Ouais, 10, 12, 13, ouais, un truc comme ça.
Avec quoi? Avec Agnès Obel, par exemple? C'est...
Ah, c'était même avant, mais tu sais, c'était un peu violoncelle pour faire pleurer les mémés, quoi. Pardon. Non, mais c'est vrai. Mais ce qui était génial aussi, parce que du coup, ça a vachement mis en avant cet instrument. Et puis après, il y a plein de violoncellistes qui ont pu faire ce qu'ils voulaient de leur instrument. Et ça, du coup, c'est chouette. Il a été démocratisé, en fait.
Ouais. À partir de cette période-là.
Après, Agnès Obel, évidemment, aussi, elle a mis en valeur cet instrument. Quoi, les instruments à cordes, de manière à faire pleurer les mémés, mais pas que, quoi.
Non, pas que. Bon, on écoute, puisqu'on parle d'autres artistes, on va en écouter un. Ça s'appelle Simone Dopal. Et je crois que les Bobs nous en avaient déjà parlé dans cette émission.
Ils avaient joué avec eux, ouais.
Mais on n'avait pas écouté, je pense pas. Et c'est le choix donc de Suis-je. Pourquoi tu as choisi cet artiste-là?
Parce que j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce projet. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans les coulisses de l'émission. C'est le premier concert que j'ai vu après le premier confinement. On a été vraiment enfermés. Et là, j'ai eu tous mes poils qui se sont dressés, la petite larme à l'œil. Et puis c'était trop beau. Et en plus, c'est des amis. Donc voilà, je suis contente de partager ça avec vous.
On écoute ça, Simone Dopal. Le nom du morceau, c'est Quand le jour tombe. Et après, on se retrouve pour le live de Suis-je. A tout de suite.
Je passe de bâtiment.
nouvel album dont on parle depuis 10 minutes et on va en parler encore juste après. Le premier morceau s'intitule « S'oublier ». Cet instrument et c'est vrai que ça voilà tu me donnes ça à une sortie de confinement je pense qu'il faut sortir les mouchoirs aussi ouais.
Alice, un nouvel extrait de notre invité de ce soir, Suige, qui a sorti son nouvel album Soufflou chez nos amis des disques normaux, qui est sorti le 21 avril dernier. On va écouter un dernier titre qui s'appelle Oula.
En direct dans le studio de Canal B. On te laisse reprendre un peu ton souffle parce que mine de rien, il y a quand même vachement d'engagement. il fait chaud dans le studio, ouais, ouais. Voilà, il y avait tellement d'énergie que ça, la moitié des lumières du studio nous ont lâché pendant le live.
Trop de vibrations.
Voilà, c'est, vous avez entendu trois morceaux qui s'intitulent S'oublier, Alice et Lia, et que vous pouvez retrouver sur Souffle Nu, le tout premier album de Suige, qui est sorti en avril.
En live, c'est bon, tu as repris ton souffle, tu nous dis.
Oui, non, c'est bon, j'ai juste très chaud, ça va très bien.
En live, je sais pas, là tu as joué dernièrement du coup aux Embellis, un peu en immersion totale avec le public, en 360, etc., pour vraiment envelopper le public de ta musique.
Oui.
C'est un live que tu proposes tout le temps ou c'était spécialement pour les Embellis? Ça se passe comment le live de Suige?
En fait, je pense qu'on peut dire qu'il y a une formule concert et une formule spectacle, un peu pour les différencier. La formule concert, je joue simplement mes morceaux. Et la formule spectacle, c'est la formule que j'ai proposée aux Embellis, où là je suis accompagnée de mon équipe technique qui a fait un gros travail artistique, donc Sacha D'Enfer au son, qui a fait travailler tout l'aspect de son immersif en 360 degrés, et Eric Hervé qui a fait la scénographie qui tourne et qui manipule aussi à vue le public.
Scénographie qui tourne, ça veut dire que j'ai été pas aux Embellis 4.
Bravo. Je vous félicite pas.
Et du coup, on doit aider les auditeurs qui n'étaient pas à s'imaginer le mise en scène. Et scénographie qui tourne, c'est-à-dire.
En fait, parce que je suis au centre du public, le public est disposé vraiment autour de moi, pas en 360 totalement parce qu'il y a l'espace technique quand même, les gars ils sont derrière moi. Mais il fallait déjà pouvoir distribuer tous les champs de vision pour pas qu'il y ait quelqu'un qui reparte en disant bah, « moi, je l'ai vu que de dos, super !» Mais aussi pour créer aussi des tableaux intéressants, parce que des fois, je suis de dos pour tout le monde pratiquement. Donc voilà, c'est en fait, ce spectacle, il a vraiment été imaginé pour aller titiller un peu tous les sens du public, pas que les oreilles. Parce que même sur la lumière, on joue vraiment sur une lumière très intimiste, voire dans le noir. Et à des moments, il y a un ou deux morceaux que je joue dans le noir complet, mais ça c'est chouette aussi.
Ouais, il y a quelque chose de très intime comme ça, hein, quand tu joues un petit peu au milieu de tout le monde, et même dans ta façon d'avoir enregistré l'album aussi avec Damien Thillot, on en a souvent parlé dans cette émission, où vous l'avez enregistré sans effet, sans quoi que ce soit, vraiment à l'état brut comme ça. C'est aussi pour avoir le côté vraiment intime de ta musique, pour qu'on ressente vraiment les choses comme toi tu les as ressenties. Fin...
Oui, il y a ça en fait, pour vraiment mettre en valeur le côté pur de l'instrument, mais en même temps on s'est amusé à trouver différentes sonorités au sein de l'église, puisqu'il y a quand même beaucoup de pistes de violoncelle empilées, si tout était très réverbéré ça aurait été très compliqué. Donc je me souviens, il y a des fois où je me baladais avec mon violoncelle, on allait écouter le son dans différents endroits de l'église. Après elle est très grande donc ça va, mais des fois il y a des pistes que j'ai enregistrées face à un coin pour pas que ça résonne trop, et après Damien il mettait 6, 7, 8 micros pour une prise, parce que en fait au mixage c'était juste la balance entre les différents micros quoi.
Toutes les prises ont été enregistrées dans cette église là
à Chevenier.
Oui, à Chevenier, c'est incroyable.
C'est du local.
Voilà. Bah oui, c'est du local.
Il faut l'accord du prêtre pour ça, de Chevenier, comment ça se passe?
Là, on avait demandé à la mairie, qui, oui, forcément, on a quand même demandé, ouais. Je sais pas si c'est le prêtre, je sais pas, j'ai pas une culture religieuse.
C'est pas trop occupé de cette partie-là.
Ah, il y avait quand même une autre partie, c'est que si jamais il y avait un enterrement, on devait arrêter le ministère. Ça n'est pas arrivé. Mais toutes les heures, la cloche sonnait. C'était pas mal. Donc,
on l'a pas sur l'album.
Si.
Ah si, on l'a.
En détournée,
au casque.
C'est le titre 22 août où il y a, en fait on a enregistré la cloche, mais on a mis des effets. Là pour le coup, j'avoue, je pensais pas le dire dans cette émission. Il y a un effet juste sur cette cloche.
Il n'y en a pas sur le violoncelle et
non. Non, c'est juste la réverbération de
Damien Thillot, c'est quelqu'un avec qui tu es habitué de.
Ah oui.
Ouais.
Bah dans We Only Said déjà,
oui,
il
oui,
est à la base.
Ouais, mais c'est
vrai ça.
C'est, ouais, mais en fait, Damien, je sais même plus depuis combien de temps on se connaît, mais en fait, à chaque fois que j'enregistrais avec un projet René, c'était pas mieux. Et du coup, en fait, moi, je trouve que c'est quelqu'un en plus qui bosse méga bien, qui est d'une gentillesse rare, à l'écoute de ce qu'on veut vraiment, et en fait, il se remet même aussi tout le temps en question, parce qu'il est tout le temps en train de chercher des nouveaux trucs, des nouveautés, quoi. Et du coup, moi, il n'y avait pas trop de doute sur le fait de vouloir enregistrer avec lui. Et quand je lui ai proposé le projet, il y avait aussi ce côté un peu de challenge qui l'intéressait.
L'idée de l'église, c'est venu comment?
En fait, on cherchait un lieu où on voulait pas rajouter des fois. Ça, c'était sûr. Après, au début, on s'est dit qu'on allait peut-être enregistrer dans différents lieux. En disant, peut-être une église quand on veut de la réverb, peut-être un autre truc. Et là, on s'est dit, ça va être galère. Et je crois que c'est un des premiers lieux qu'on a testé, l'église de Chevigny. Et en fait, elle proposait tout. Donc, c'était top, quoi. Et voilà, ça c'est.
Et quand tu dis que Damien était très à l'écoute de ce que toi, tu avais envie, de ce que tu proposais, est-ce que dans l'autre sens aussi, il a peut-être apporté des choses auxquelles tu n'as pas forcément pensé, il t'a dirigé sur d'autres aspects?
Et je me rappelle d'une demande que je lui avais faite, puisque c'est quand même assez particulier de se retrouver en solo. En fait, dans tous les groupes que j'ai, même j'ai un autre groupe où on compose vraiment à quatre, à chaque fois, il y en a une de nous qui réagit à ce qu'on fait. Ah oui, mais ça c'est bien ça, ah non, ça c'est moins bien. Et en fait, il y a une espèce d'effervescence qui se passe. Là, toute seule, je me suis dit, mais ça va pas. Comment...
Tu t'effervescences pas toute seule? C'est quoi le verbe?
Je sais pas. Non, mais c'était vrai. Et en fait, quand je lui ai parlé de l'enregistrement, je lui ai dit, est-ce que tu acceptes de me faire des retours sincères sur les morceaux que je t'envoie? Et en fait, on a un peu fonctionné comme ça. Il y a des fois, il me dit, là, il y a un petit peu de longueur. Donc, ça me permettait d'avoir des petits retours sur mes compositions qui étaient hyper intéressantes. Et oui, après, évidemment, je pense que. Là, comme ça, je m'en souviens plus exactement, mais pour l'enregistrement, je pense qu'il avait plein d'idées et que moi, de toute façon, je lui fais confiance les yeux fermés, donc voilà, c'est chouette de travailler avec lui.
Et avec Martial, des disques normales, c'est pareil?
C'est moins chouette.
C'est moins chouette, ah
ouais. Non, c'est dur.
Mais il est pas cool, Martial. Hein.
Ouais, non.
Mais c'est pareil, il fait partie de ce cercle, j'ai l'impression, où il y a Pierre Marolo, j'en oublie certains, mais enfin voilà, il y a un groupe d'amis, je pense, qui s'est créé autour de plusieurs projets.
Ah bah oui, c'est ça. Après, Marcel, je le connais pas depuis si longtemps que ça. C'est Damien, en fait, quand on enregistrait Suis-je, il m'a dit, mais il faut que tu rencontres Martial, je suis sûre, il serait intéressé pour sortir ton album. On avait mangé ensemble, c'était hyper sympa, tous les trois et tout. Et puis, quelques semaines après, Martial m'a dit, je ne peux pas sortir ton album, c'est impossible, j'ai trop de choses là en ce moment, c'est pas possible. Et en fait, c'est un peu grâce à lui que je l'ai sorti l'album, parce que c'est lui qui m'a relancé, je ne sais plus quand, qui m'a dit, bon, sors ton album ou il sort pas. Et je lui ai dit, je sais pas, t'es intéressé. Il fait, allez, pourquoi pas.
Finalement.
Ah, donc il n'avait pas oublié.
Ah non, en fait, il n'avait pas oublié. Il m'a même dit, la dernière fois qu'on s'est vu, en fait, puisque je ne voyais pas l'album sortir, je me disais que c'était trop dommage. Donc, en fait, je t'ai relancé parce que je voulais qu'il sorte. Donc, merci, Martial.
Merci, Martial.
Donc, c'était une blague, Martial, si tu m'entends.
Je pense qu'il aura compris.
Oui, ça devrait.
Il y a relativement peu de textes sur cet album, Souffle Nu.
On ne peut pas dire presque pas du tout, quoi.
Et j'imagine que c'est un choix, mais parfois aussi on subit des choses sans le vouloir. Voilà, ça sort comme ça ou ça sort pas.
Je sais pas trop comment ça s'est venu. Je pense que je me suis pas dit quand j'ai commencé à composer, il n'y aura pas de texte. Mes compositions sont venues de manière vraiment instinctive. Et quand j'y repense, quand même quand des fois je réécoute, je me dis mais comment j'ai composé ça, ça va me paraître folle. C'est comme si vraiment quoi. Et en fait cette voix elle est venue un peu naturellement. Cette voix un peu soufflée, tout ça. Et en fait il y a eu deux sessions d'enregistrement. Il y a eu une première partie où j'ai enregistré peut-être 25 minutes, et après il y a eu 4 ou 5 morceaux qui sont apparus, et c'est là où il y a eu 2 morceaux avec texte. Et en fait, c'est peut-être qu'à ce moment-là, j'avais besoin d'exprimer autre chose. En fait, je me suis jamais trop... J'ai pas trop conscientisé ou mentalisé ce qui s'est passé, en fait, pour mes compositions. Et je me dis pas, peut-être que si, futur album il y a, il y aura carrément du texte chanté, parce que là, même, c'est pas du texte chanté, c'est plus parlé. Je verrai ce qui arrivera au moment.
Après, le violoncelle, c'est déjà un instrument où il se passe énormément de choses et énormément d'émotions, donc... peut-être ça aussi, ou quelque part ça suffisait peut-être aussi quand tu as composé.
Bah, en tout cas, je me suis pas dit tiens, il faut absolument qu'il y ait du texte, parce que pour moi aussi ça permet, c'est vraiment ma vision, hein, ça permet aux auditeurs d'aller où ils veulent. En fait, du coup, tu écoutes le morceau. En fait, après, les retours que je peux avoir, c'est que ça peut perturber le fait qu'il y ait... En fait, ça aurait été que du violoncelle, on m'aurait jamais rien dit. Et puisque là, j'ai de la voix, et bah, du coup, on me dit, mais pourquoi t'as pas mis de texte ? Ouais, pas forcément vous, hein, mais... Et en fait, pour moi, ça reste quand même de la musique instrumentale. Parce que pour moi, la voix et le violoncelle, elles se mêlent, et en plus, on me dit que le violoncelle, c'est l'instrument qui se rapproche le plus de la voix humaine, et du coup, pour moi, c'est vraiment ça que je pense que j'ai voulu essayer de...
Et les parties, là on voyait les parties live où justement tu fais ta voix, tu chantes et tu souris beaucoup. Et ça s'entend en fait dans ta façon de sortir ton souffle et tout, ça s'entend vachement en fait que tu es en train de sourire. Et je me demandais si c'était volontaire pour l'écoute, tu vois, je sais pas. Mais je trouvais que ça s'entendait et c'est voilà, le fait là, de te voir vraiment et de sentir le... Non, c'est parce que tu es heureuse d'être là, peut-être, je ne sais pas.
Non, en tout cas,
mais ça s'entendait, je trouvais.
En tout cas, c'est sûr que quand je joue ces morceaux, je suis moi. Je ne suis pas dit, force-toi à sourire, c'est que oui, j'ai joué ces morceaux, il y a quelque chose qui est plus dur que dedans, peut-être que là, je souris moi. Je sais pas.
Bah, ça a l'air de plus physique aussi.
Ouais.
On sent que c'est vrai. Il y a plus d'engagement. Mmh. Ouais. Mais l'émission touche déjà quasiment à sa fin.
Tout à fait.
Mais on aura l'occasion peut-être de te recevoir à nouveau. On l'espère en tout cas. C'était super de te recevoir et merci d'avoir accepté l'invitation.
Et ben, merci pour l'invitation. Merci beaucoup.
Quelques idées sorties pour se quitter, c'est la tradition dans cette émission. Kat, t'as
tout à fait. Moi, je vais faire une double annonce du coup. Parce qu'il y a les Grumises au bateau ivre ce samedi, donc évidemment pas en concert avec tous les membres puisque ça n'est pas possible. Des Garages Urinaires qui ont enregistré tous leurs morceaux il y a 30 ans à Londres chez Liam Watson. Et là, ils ont sorti du coup le vinyle avec 11 titres de leur session anglaise et les 5 titres de leur première démo. Ils avaient joué en trans en 93. Donc voilà, c'est un peu un événement quand même pour nous à Rennes. Hein. Et voilà, et du coup, c'est aussi un hommage à un de leurs membres, du coup, Antoine Jamais, qui est décédé. Et la double annonce est que du coup, ce sont nos invités de la semaine prochaine. Donc ça ne sera pas forcément, il n'y aura pas un live puisque voilà, il y a un membre qui n'est plus là. Mais on va essayer de trouver un petit peu une émission hommage, on va dire, au groupe avec des invités et puis peut-être un DJ set du groupe. Enfin, on verra, mais ça sera la semaine prochaine avec eux en tout cas.
Wow. Tu colles à l'actualité.
Et ce samedi, au bateau. Et du coup, ça sera déjà passé, tant pis, mais voilà.
Ils ont certainement quelques anecdotes à raconter.
Voilà, exactement.
Sur leur parcours. Ok. Je crois que tu avais des idées.
Oui, si vous avez la chance et que vous écoutez l'émission mercredi, ce soir, il y a une soirée au Bistrot de la Cité organisée par le label Swish Swash Records. Swish Swash. Avec un groupe anglais donc, qui vient de signer leur premier album chez eux avec sax, trompette, punk en mode grosse ambiance quoi. Donc voilà, c'est au Bistrot de la Cité ce mercredi, ce soir. Voilà, Swish Swash.
C'est comment, c'est Folk Soup, c'est ça?
Ouais, c'est ça, Folk Soup.
Et de mon côté, j'ai noté qu'il y avait une soirée assez énervée aussi ce samedi au Market Sade avec trois groupes de post-punk, emo, hardcore. La plupart viennent d'Angers. Voilà, il y a Fragile, Grand Froid et Limboy. Il y en a deux qui viennent d'Angers, d'autres de Bordeaux. Et ma foi, ça peut être sympa aussi pour ce samedi soir. Qu'est-ce qu'on écoute pour se quitter? On écoute Folk Soup, Binge? Ou tu veux écouter autre chose? Tu voulais écouter Arthur Russell?
choisi.
Ouais, bah Link Boy, allez, Link Boy, donc samedi au Marc 7. Allez.
Allez.
Bon, et bah à la semaine prochaine.
La semaine
merci
prochaine.
De nous avoir écoutés. Salut.
Écouté.
Salut.
Yeah. Yeah! 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 Ye